Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Meige. Réalisation Alexandre Fougeron. Et autour de moi ce soir, Lucille Como, Marie-Josée Sirage et Philippe Chevillé pour parler ensemble de Les Idoles, Christophe Honoré, en ce moment à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe, de Scarlett Leiter, texte et mise en scène d'Angelica Lidl, en ce moment à La Colline, Erwart ou Les Derniers Jours de Frédéric Nietzsche de Hervé Blutsch, mise en scène Laurent Fraîcheret, en ce moment au Théâtre du Rond-Point, et puis un coup de cœur de Philippe Chevillé pour Beechraven, un texte et une mise en scène de Frédéric Sontag qui poursuit sa vie en tournée. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour Soleil Blanc de Julie Berès, des places à gagner pour jeudi 17 janvier à 20h au Célestin, Théâtre de Lyon. Et nous ouvrons cette dispute avec un spectacle qui fait le plein à l'Odéon Théâtre de l'Europe, Les Idoles de Christophe Honoré. Deux représentations ont été ajoutées pour tenter de répondre à la très forte demande. En des temps plutôt moroses pour le théâtre, c'est une bonne nouvelle que des gens aient à ce point envie d'y aller. Christophe Honoré, on le sait, est écrivain, cinéaste, metteur en scène. Et tout cela, c'est sans doute lié aux admirations de jeunesse qui ont été les siennes. Il a choisi d'évoquer six figures importantes pour lui, avec pour point commun qu'il s'agit de six hommes morts du sida. Jean-Luc Lagarce, Bernard Maricoltès, Jacques Demy, Serge Danet, Cyril Collard et Hervé Guibert.
Madeleine, est-ce qu'on peut se voir? J'ai quelque chose à te dire. Je t'invite à manger demain soir au Vepleur. Madeleine, j'ai le sida.
L'extrême droite est un virus comme le sida. Il contamine, il se répand, il attaque le système immunitaire de la société, d'un pays. Il bousille nos défenses et après, faut passer ton écran shop toutes les saloperies qui passent.
J'ai le sida! C'est quelqu'un bouge! Je te le refile! Et là, le mec, il est surflippé! Il a vraiment surpeur. Avec cette main en sang, j'aurais pu sauver la France de tous les fachos du pays.
Moi, je crois que vous avez tous joué le jeu de l'épidémie en justifiant l'existence du sida comme un truc tombé du ciel envoyé par la fatalité pour parachever votre devenir artiste. Surtout vous, Guibert et Collard, vous avez donné au public ce qu'il attendait, non pas des séropositifs combattants, revendicatifs et coléreux, mais des créateurs convaincus de l'utilité de leur maladie et prêt à se poser en figure sacrificielle.
Autrefois, on me disait « vous avez de beaux yeux ou t'as une belle bite ». Maintenant, des infirmiers me disent « vous avez de belles veines ».
Les hétérosexuels me jugent parce que je couche avec des hommes. Et les homosexuels me jugent aussi parce que je ne serai pas un vrai PD comme je couche aussi avec des femmes. Mais ouais, je suis désolé. J'aime la bite, j'aime la chatte, j'aime le petit bouge, alors.
D'accord, je disais juste qu'il y avait un retour à la norme. Bon, vous n'êtes pas le seul à rousser. C'est vrai, au final, il y a peu d'homosexuels dans le cinéma français qui restent homosexuels jusqu'à la fin du film. Mais ça m'avait un peu déçu, de ce point de vue-là.
Voilà, quelques échos de ces idoles de Christophe Honoré. Philippe Chevillé, j'ai pu lire votre critique enthousiaste dans Les Échos, donc je ne serais pas très surpris niveau lecteur de vous entendre parler de ce spectacle, mais par des mots maintenant à la radio.
Non, je ne serais pas moins enthousiaste dans le micro que dans les mots dans Les Échos. C'est vrai que ce qui fait une représentation qui vous marque, c'est quand on est ému, quand on est touché. Alors ça peut être on peut toucher de façon négative ou positive. Là, c'était positif. Et quand pendant tout un spectacle, on est touché, on se dit que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je trouve qu'il a remarquablement convoqué ces fantômes qui sont évidemment des personnages qui sont importants et qui nous manquent. Il y a à la fois cinéaste, écrivain, auteur dramatique, critique, c'est tout un monde qui, dans les années 90, a disparu, mais en même temps qui a continué à vivre par la scène, puisqu'on voit encore beaucoup de pièces de Coltès ou de Lagarce. On a encore un petit peu moins, mais les films de Demy. Donc tous ces gens, c'était important de les retrouver de cette façon. Je trouve que Christophe Honoré a remarquablement su mélanger une compilation des textes des uns et des autres avec ce travail de plateau qui, ces derniers temps, je m'agaçais un peu du travail de plateau que je trouvais un peu faible. Là, je trouve que vraiment, les improvisations, ils ont gardé ce qu'il fallait, et que cette alternance de moments dramatiques avec les extraits de journaux, de romans, de livres, et en même temps ces petites scénettes qui éclairent d'un seul coup, dont on pourra reparler, qui nous amènent des moments de lumière, ça fait vivre ces personnages, ça les fait revivre, ça donne une nostalgie bien sûr, mais une nostalgie plutôt joyeuse. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que non content de nous parler du passé, de cet art qui a été affecté, transcendé par la maladie, on nous parle aussi du présent, puisque dès le départ, on interroge le monde d'aujourd'hui à travers ces personnages. Donc moi, j'ai été pris tout du long pendant, et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà.
Premier regard de Lucille Como sur les idoles de Christophe Honoré.
Alors la seule chose avec laquelle je sois d'accord dans ce que vient de dire Philippe Chevillier, c'est que en effet je n'ai pas non plus vu le temps passer. Je pense que le dispositif fonctionne extrêmement bien pour décrire un peu ce qui se passe sur scène. On est dans une sorte de lieu un peu de transition qui peut être à la fois un hall de gare, un hall d'aéroport. Il y a un abribus derrière, des chaises en plastique orange, et Christophe Honoré fait évoluer donc 6 acteurs qui interprètent chacun une des 6 idoles. Ce sont des hommes et des femmes. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes, et ils ont tous un grand moment, disons que ça structure un peu la pièce, et entre ces grands moments-là qui peuvent être un peu des sketchs, un peu des grands monologues, voilà, il y a un petit peu de vidéo, il y a de la musique, il y a aussi un peu de danse, on en reparlera peut-être. Alors moi je vais revenir juste sur le début de la pièce, et en plus on en a entendu un petit extrait dans l'extrait qu'on a diffusé. Cyril Collard donc parle de l'extrême droite et parle de Renaud Camus comme une de ses propres idoles à lui, donc c'est intéressant parce qu'il y a les idoles des idoles dans la pièce.
C'est Lagarce, hein.
Ah, c'est Lagarce, ouais, pardon.
Jean-Luc Lagarce, qui tenait Renaud Camus pour un des plus grands écrivains.
Voilà, il explique qu'il tenait, Renaud Camus pour un des plus grands écrivains.
De son vivant.
Et aujourd'hui, évidemment, bon, lui étant mort, il se met en scène en tant que fantôme, évidemment, en détestant ce qu'est devenu Renaud Camus.
Bah, il y a un extrait d'un livre de
voilà,
Renaud Camus assez récent sur le grand remplacement.
Qui est un des plus réactionnaires sur le grand remplacement et ce qui est devenu la France. Bon, évidemment, ce texte est immonde à tout point de vue, mais pour moi, c'est assez représentatif d'une captatio benevolentiae d'emblée se mettre un peu le spectateur type de l'Odéon dans la poche. Et je trouve qu'à partir de là, se déroule un spectacle qui est extrêmement confortable. Extrêmement confortable sur des sujets qui, à mon avis, pourraient poser plein de questions et produire de la pensée critique. En fait, ce que fait Honoré dans ce spectacle, et on est au théâtre de l'Odéon, on est à quelques centaines de mètres du Panthéon, c'est un Panthéon. C'est un Panthéon dans tout ce que la forme Panthéon peut avoir d'extrêmement lourde, d'extrêmement écrasante, et surtout de pas dynamique du tout. Donc je me suis pas ennuyée parce que les textes sont beaux et qu'on a en effet envie d'entendre ces auteurs et envie de se rappeler ce qu'ils ont fait. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, le spectacle ne produit aucune pensée ni politique ni critique de quelque sorte que ce soit sur l'homosexualité, le sida, l'évolution de tout ça. Moi, pour le coup, j'appartiens à une génération totalement post-sida, c'est-à-dire que je n'ai pas connu de gens qui sont morts du sida, je suis vraiment arrivée après, et j'attends toujours, après les films de Christophe Honoré, après tous les films qu'on a pu voir l'année dernière, une pensée politique, critique sur le sida, qui a existé, je pense dans les années 90, dans les revues, dans peut-être aussi dans l'art, et peut-être justement chez Hervé Guibert, et qui là est totalement absente du spectacle. Alors oui, on rit, alors oui, on est ému, il y a des grands moments d'émotion. Je pense à ce moment où Marina Foïs, qui interprète Hervé Guibert, dit un texte de Guibert sur la mort de Foucault qui est sublime, mais qui de toute façon est sublime, donc transcende absolument la forme même de la pièce de Christophe Honoré. Mais en dehors de ces petites émotions-là, qui, moi, je trouve, ne sont pas très intenses, j'ai l'impression que ce spectacle ne produit rien. Vraiment, ne prenez pas vraiment de sens.
Bon, il y aura des réponses de Philippe dans un instant, mais on va d'abord entendre Marie-Josée Sirache et son premier regard sur ce spectacle.
Mon premier regard, il est d'abord très enthousiaste parce qu'effectivement, moi, j'ai été touchée, mais pour beaucoup de choses. Et Et je pense qu'il y a une vraie pensée politique sur le sida, sur l'homosexualité, aujourd'hui, où l'on pense que c'est derrière nous. Or, il se trouve que cette maladie continue quand même de faire des morts, elle continue de proliférer, qu'on a la chance d'habiter dans un pays où il y a des moyens, des dispositifs qui existent pour prendre en charge les patients, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Et qu'ils remettent sur le plateau cette question-là, ça me semble pertinent à l'heure où quand même on est dans une grande confusion et où on oublie très très vite ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et le combat qu'il remet sur le plateau, c'est-à-dire les échanges entre ces 6 personnages, que ce soit Cyril Collard, Danet, Demi, enfin tous ceux que vous avez cités, et Dominique Bagouet, puisqu'il lui rend un hommage quand même, il est mort un peu avant tous les autres, les échanges à la fois réels à partir de leurs écrits ou de leur prise de position et ce qui relève de l'improvisation parce que chacun s'est mis dans la peau de son personnage fait que la question qu'il parle au présent de cette question-là et ce qui est assez beau je trouve c'est la façon dont il en parle il joue sur plusieurs temporalités parce que le décor nous renvoie dans un Paris des années fin des années 80 c'est-à-dire c'est vraiment c'est les Halles c'est vraiment le centre du monde là où il se passait toutes les rencontres possibles et imaginables c'est ce métro où qui avait une odeur extrêmement reconnaissable entre mille, où les échanges furtifs, interdits, pouvaient se passer, où on pouvait échanger tout ce qu'on voulait sous le manteau, avec ces grandes pubs du Club Med rêvées, qui nous agressaient en permanence. Enfin, moi, je me suis complètement revue dans ces années-là, ces années où le sida était tabou. Il y avait ceux qui osaient franchir le pas et dire publiquement leur maladie, comme Cyril Collard, et ceux qui se taisaient. Par honte, peu importe, par crainte, parce que, peu importe, et c'est ça qui est beau chez Honoré, c'est qu'il ne les juge pas. Il les fait se confronter, ils vont s'empoigner, ils vont s'engueuler, ils vont s'aimer, ils vont rire entre eux, et c'est ça qui donne toute la force à ce spectacle choral, qu'il orchestre, je trouve, vraiment avec une très grande justesse.
Alors peut-être juste avant de laisser répondre Philippe, il ne les juge pas, Christophe Honoré, moi je crois que c'est ça, en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on attend de ce spectacle-là ? Moi je trouve que c'est vraiment le spectacle Christophe Honoré au théâtre, pour le théâtre que je trouve le plus réussi. Contrairement à Nouveau Roman, par exemple, qui me semblait vraiment très, pour le coup, caricatural sur les personnes qui étaient dépeintes, qui étaient donc les auteurs, en gros, pour dire vite, les éditions de Minuit. Les Idoles, ça m'est apparu plus juste parce que justement, il me semble que c'est l'amour que leur porte Honoré qui est en fait le sujet du spectacle et que du coup, ça donne un spectacle plus tendre, plus sensible et, alors peut-être en effet, pas du tout, ou presque pas politique. Je pense qu'il y a il marche sur plusieurs jambes, ce spectacle, sur l'amour, sur des moments un peu de comédie, comme quand il y a ce sketch où Bernard-Marie Koltès fait semblant de tourner un film dirigé par Cyril Collard où Koltès joue Travolta marchant dans les rues de New York. Bon voilà, ce sont des moments comme ça plus légers et en même temps avec beaucoup de fantômes. Mais c'est vrai que à part un petit moment, je me suis c'est là que ça va arriver, c'est quand je ne sais plus lequel d'entre eux s'énerve pour dire mais pourquoi est-ce que vous avez pas été des activistes
c'est Demi non Taylor en fait
ah c'est Liz Taylor oui parce que oui il y a d'autres figures hein, qui sont convoquées il y a Liz Taylor il y a Rock Hudson beaucoup d'autres et oui Liz Taylor incarnée aussi par Marlène Saldana qui fait un très beau Jacques Demi a dit mais vous êtes des intellectuels français des artistes des gens connus pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenus des activistes la question est posée il n'y a pas de réponse Philippe Chevillier.
Bah justement, c'est cela, c'est qu'on a, on est face à des artistes qui n'ont pas forcément pris un parti. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce spectacle couvre totalement la dimension politique. Et c'est effectivement Liz Taylor qui est interprétée par Jacques Demy. Il faut le rappeler.
Par Marlène Saldana.
Voilà, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, en fait, ils répondent chacun à leur façon. Donc, il y a Jacques Demy qui, évidemment, n'a pas parlé de son homosexualité ni de sa maladie. Mais il y a les autres. Et Jean-Luc Lagarce, on le sait, qui voulait pas mettre en avant, même dans ses pièces, la maladie. Donc, en fait, la question politique, elle est posée par les artistes. Il y a aussi le fait que Guibert met en avant sa maladie. Toutes ces choses-là, elles sont abordées parce qu'on parle d'idoles qui sont porteuses de ce qu'elles ont, d'artistes qui ont porté à leur façon et qui ont lutté à leur façon contre la maladie. Et on ne pouvait pas, c'était pas effectivement un propos sur le sida en général, c'était sur ces artistes. Bon, moi, l'émotion, je trouve qu'à partir du moment où on a de l'émotion et que le temps passe, c'est que c'est plutôt réussi. Que d'une part, la salle de l'Odéon a effectivement réservé une ovation, mais c'est pas, ça aurait pu être à Berthier, puisque ça a été à Vidi. Je pense que ça a été
moi, je l'ai vu à Toulouse.
Voilà, à Toulouse. Donc, je pense que le.
Et c'était la même.
Et donc, voilà, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse pas être touché à son spectacle. Je fais partie d'une génération qui les a croisés, même si je ne les ai pas connus, et je trouve que ça les représente admirablement. Avec en plus, c'est ce que disait Arnaud, juste une chose qui m'a. Moi aussi, je pense que c'est mon spectacle préféré d'Honoré, parce que justement, il arrive à condenser, à pas en faire trop au niveau de ses petites intermèdes. Et on en parlait, et vous le disiez, Lucille, la partie très belle où on voit justement.
Marina Foïs avec Guibert.
Marina Foïs avec Guibert, mais aussi la petite danse sur du Jacques Demy qui a un moment formidable, qui est extraordinaire, qui tout d'un coup. Savoir ménager ces moments-là, c'est simplement qu'on n'est pas à la mutualité, on est au théâtre. Donc moi, je trouve ça très beau.
Bon, voilà. Juste pour, comme on a cité d'autres interprètes, c'est vrai que Jean-Charles Clichet, que j'adore, qui joue Serge Danet, je trouve que c'est lui qui est le moins bien servi. J'aurais aimé un peu plus de Danet dans ce spectacle des idoles. Il y aurait peut-être eu plus de politique aussi, du coup. Lucille Comeau.
Oui, mais justement, parlons-en. Moi, je prendrais Guibert comme exemple parce que c'est sans doute la figure la plus intéressante de ce point de vue. Et en effet, elle est effleurée, la question de la sincérité, de ce que c'est articulé dans sa vie, à la fois sa sexualité et son engagement d'artiste, puisque Guibert, lui, il considérait que presque être écrivain et être homosexuel, c'était la même chose pour lui. C'est un tout petit peu dit, mais sauf que c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant dans une pièce sur la question de l'idole et sur la question de à quel point c'est narcissique de dire qui sont ces idoles, d'où vient l'héritage. Moi, je trouve que ça, c'est pas posé, c'est jamais posé. Et c'est très frustrant parce qu'en effet, la pièce, elle fonctionne. On a besoin de plus de fond et ça me fait exactement le même effet que dans le dernier film de Christophe Honoré, qui d'ailleurs a évidemment des liens et des correspondances. Par exemple, Danet, il y a un moment donné où il y a un texte de Danet qui, enfin, c'est pas forcément un texte, d'ailleurs, c'est peut-être un texte qui a été réécrit sur la question de la cinéphilie comme épidémie. Après tout, comme le sida, c'est passionnant, c'est là qu'on veut, c'est ça qu'on veut entendre. Et ben, c'est parasité par un film qui nous est projeté derrière, cet acteur qui joue en effet Bernard-Marie Coltès, qui franchement, pour le coup, ne figure rien. C'est une sorte de gravure de mode, il est très beau, à part imiter Travolta, il ne fait quasiment rien dans la pièce d'Honoré. Et c'est assez représentatif, je trouve, du spectacle. C'est trop joli, c'est trop léché. Il y a presque trop de choses alors qu'on a envie juste d'entendre Danet, d'entendre. Ce texte-là, parce qu'il est passionnant et parce qu'il donne à penser, encore une fois. Je trouve que ce spectacle ne produit pas de pensée sur un sujet qui, à mon avis, est un sujet intéressant et je pense qu'il a l'ambition de le faire et ça rate.
Lucille, elle ne produit pas de pensée pour vous, sauf que la pensée, elle n'est pas seulement politique, elle est, à mon avis, elle est politique dans la pièce, mais elle est aussi de la pensée sur l'amour, sur la maladie, sur l'art. Il y a toutes ces choses-là. Il y a des moments qui sont. Excusez-moi, mais moi, tant pis, je reviens à ce qui m'a touché, mais quand. Cyril Collard, tout d'un coup, revit les Césars qu'il n'a pas pu vivre parce qu'il est mort 3 jours avant. Je trouve que c'est un moment de théâtre extraordinaire et que ça nous fait réaliser des tas de choses. On est dans des émotions. Au théâtre, on peut aussi parler d'autre chose que de la politique.
Bien sûr.
Et le rapport de leur maladie et de leur art et de leur vie, parce qu'ils racontent aussi leur vie sexuelle, ils racontent aussi leur vie amoureuse. Tout cela, ça compose quelque chose qui, pour moi, porte aussi de la politique. Mais c'est pas ça que veut nous raconter Christophe Honoré. On peut demander peut-être à Ostermayer de nous faire quelque chose, puisqu'il fait des spectacles politiques maintenant. Donc on peut lui demander. Mais là, franchement, c'est je vois pas ce que, moi, je ne vois pas ce qui manque à ce spectacle.
Vous n'avez pas les mêmes attentes. C'est ça aussi la dispute. Marie-Josée,
peut-être que
finir.
J'ai dit une bêtise, mais il me semble que, par exemple, la présence de Jacques Demy, pour moi, elle est éminemment politique. Parce que c'est quand même.
Bon, c'est la première idole de Christophe Honoré.
C'est la première
qui parle
idole.
Aussi à la première personne, on ne l'a pas dit, à travers une enceinte deux fois dans le spectacle.
Ouais. Mais parce qu'il y a eu. Ça ne sait pas beaucoup, l'homosexualité de Jacques Demy, de quoi il est mort.
Parce qu'elle a été cachée.
Elle a été cachée. Et donc ça.
Longtemps.
Jusqu'en 2008.
Jusqu'en 2008. Donc, mais ça s'est su, puis on est passé à autre chose. Et le fait qu'il le remette sur le plateau aux côtés des autres, parce qu'il est mort à peu près. Ils sont tous morts à peu près à ce moment-là, je trouve que c'est quand même important, quoi. Ça dit. Ça a une signification.
Une minute, parce que je voulais dire. On a parlé de.
Même pas.
On a parlé de Marlène Saldana qui était formidable, on a parlé évidemment de Marina Foïs, Julien Honoré qui m'a beaucoup ému dans le rôle de la garce, mais moi je voulais défendre Youssouf Abiyayat que je suis un peu depuis le début, que j'ai trouvé dans le rôle d'un coltège justement pas très aimable comme l'a voulu Honoré et en retenue et d'une justesse je trouve infinie jusqu'au petit chant de Bob Marley à la fin qui chante admirablement. Moi, j'avoue que je pense que ce garçon a beaucoup d'avenir.
Bon, ce serait pas normal de pas citer Harrison Arévalo, qui joue très bien Cyril Collard.
Oui, qui est formidable aussi dans Cyril Collard. Mais c'était pour parce qu'avec Lucille, on n'était pas d'accord. Donc je voulais...
Bon, alors les idoles, on n'a pas fini d'entendre parler sur France Culture. D'abord, c'est au Théâtre de l'Odéon. À l'Odéon Théâtre de l'Europe, il y a des dates supplémentaires, donc je pense le 2, jusqu'au 2 ou 3 février, je ne sais plus. Christophe Honoré, vous pourrez l'écouter, Lucille Comeau, ce soir, dans l'émission de Marie Riche, Par les temps qui courent. Il développera sans doute, évidemment, ce qu'il a voulu faire avec ce spectacle. Marina Foïs, elle sera l'invitée d'Olivia Gesbert dans la Grande Table ce mercredi. Et puis moi, j'animerai le 28 janvier à 20h à l'Odéon la scène imaginaire de Christophe Honoré. Vous savez, cette série d'émissions avec des metteurs en scène qui choisissent des textes qu'ils font lire par des comédiennes et comédiens qu'ils ont aussi choisis. On peut réserver ses places sur le site de l'Odéon et cette émission de scène imaginaire sera diffusée le dimanche suivant sur notre antenne. Voilà, à suivre. Encore beaucoup de choses, hein, de Scarlett Leiter, Erwart et Beach Raven.
France Culture. La dispute.
Suite de cette dispute avec The Scarlet Letter, texte et mise en scène d'Angélique Hallydel, librement inspiré de l'œuvre de Nathaniel Hawthorne, créé au CDN d'Orléans le mois dernier, aujourd'hui à l'affiche de La Colline à Paris. Un point commun, au moins avec les idoles, puisque l'auteur, interprète, metteur en scène espagnol, il déclare notamment son fol amour pour Michel Foucault. Pour le reste, on va en parler.
No te soltaré de la mano hasta que no me hayas reventado la cabeza con ella.
Un sort qui nous est jeté par Screaming Jay Hawkins, qui est le figure de la bande son de ce nouveau spectacle d'Angélique Hallydel. Et c'est Lucille Comeau, bon courage, qui commence à nous en parler. Il faut un peu parler de quoi est composé ce spectacle, Lucille.
Je vais essayer de synthétiser.
Je vous connais.
Alors, donc, le texte d'Hawthorne, il est toujours très lointain, comme dans la plupart des spectacles d'Angélique Hallydel. Il ne faut pas s'attendre à une représentation classique d'un texte. C'est un roman, quand même, il faut le dire, un roman américain qui est considéré comme un des premiers romans américains et qui est l'histoire d'une jeune femme qui vit recluse dans un monde extrêmement puritain et qui est forcée de porter sur sa poitrine la lettre A comme adultère parce qu'on l'accuse d'avoir couché avec un homme autre que son mari et d'avoir eu un enfant de lui. Alors là, sur la scène, il faut se représenter de quelque chose de très noir et rouge. Il y a un petit prologue avec une tombe, un couple d'Adam et Ève nus et puis une tête de sculpture antique et un jeune homme qui vient poser sa tête contre cette tête-là. Puis après, Angélique Hallydel entre en scène. Elle a une robe typiquement Amérique puritaine du 17e, 18e, 19e siècle, on va dire, avec un panier extrêmement noir, et puis des hommes qui sont vêtus comme des grands prêtres d'une cérémonie qui va se dérouler devant nous, une cérémonie tout en noir et rouge avec des tables, des bancs, et ces hommes vont être très rapidement nus et vont être quasiment nus tout le temps sur la scène. Et bon, je dirais qu'il y a deux parties qui d'ailleurs à mon avis sont de qualité inégale dans le spectacle. Une première partie qui est une partie, on va dire, assez chorégraphique, en tout cas de mise en place de tableaux assez hiératiques, où Angélique Hallydel ne parle quasiment pas. Elle est d'ailleurs assez périphérique, elle est sur les côtés de la scène, et on voit surtout ces hommes nus qui font une sorte de performance en soulevant les tables, en développant beaucoup d'efforts, en montrant toute leur virilité. Ce sont des très beaux hommes. Et une deuxième partie, bon là on reconnaît un peu davantage la patte de André Ligalidel. Elle prend la parole à un moment donné central et elle fait une grande logorée sur le fait que les hommes, que les femmes maintenant détestent les hommes et que les femmes sont bien inférieures aux hommes, etc. Enfin, un gros truc. On peut deviner un peu anti-MeToo, anti-tout ce mouvement qui s'est déployé ces dernières années, mais qui, comme d'habitude avec André Ligalidel, c'est tellement d'une grande violence et d'une poésie en même temps que, à mon avis, ça excède tous les clichés qu'on peut imaginer. Et j'ai retrouvé le bon André Ligalidel un peu tard, j'avoue. Je me suis beaucoup ennuyée pendant la première partie. Voilà.
Bon, bah c'était bien comme description. Bravo, hein, c'est bien. Merci. Bon, il y a le pasteur aussi, parce qu'il est là, il est important dans la lettre écarlate. C'est Arthur, voilà. Qui est Arthur.
L'ange.
Qui est l'ange, qui d'ailleurs lui s'exprime en italien, puisque c'est un acteur italien. André Ligalidel toujours en espagnol. Et il y a pas mal d'interprètes portugais aussi, puisqu'on les entendra, certains des hommes, à un moment donné du spectacle, parler. Marie-Josée Sirache, hein, sur The Scarlet Letter.
C'est vrai que André Ligalidel nous avait un petit peu perdu sur ces deux, trois derniers spectacles. Et j'avoue que celui-ci renoue complètement avec son premier, celui que, en tout cas, moi j'avais vu La Casa de la Fuerza à Avignon, je crois que c'était en 2010. Et elle est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a 53 ans et cette façon qu'elle a de se remettre en question et physiquement et intellectuellement, et ce qu'elle va chercher pour questionner le monde d'aujourd'hui et sortir de ses gonds en permanence, c'est une sorcière, elle nous le dit dès le départ. Moi, tout ce que je touche, je le pervertis, je le salis. Et elle construit un spectacle totalement blasphématoire qui fait sacrément du bien. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à nous interroger, y compris sur le féminisme très consensuel de MeToo aujourd'hui. Et elle le fait avec sa provocation à elle, mais pas que de la provocation, parce que je crois que son théâtre n'est pas obscène. Il est provocateur, il n'est pas obscène, c'est le monde qui est obscène autour de nous. Et c'est ce qu'elle nous montre. Et elle élargit son questionnement sur le rôle de l'artiste dans la société. Elle dit, sans juge, l'art n'existerait pas. Sans moralisme, sans art, l'art n'existerait pas. Et donc, effectivement, elle va dans les recoins.
Pour conclure, à l'adresse du public, sans vous, l'art n'existerait pas.
Et sans vous, l'art n'existerait pas, parce que je n'existerais pas.
Nous sommes les juges,
nous sommes tous, voilà. Et elle va jusqu'au, et elle nous pousse dans nos retranchements, en nous obligeant, en nous mettant sous le nez quand même du sang, de la sueur, de la chair, du sexe, enfin, elle y va franco, et je trouve assez pertinent à cette façon qu'elle a le lien avec le livre de Throne n'est pas évident, il est évidemment par la lettre A qu'elle a brodée sur sa poitrine, mais il est dans ce que vous disiez, ces robes paniers qui peuvent rappeler les États-Unis du 19e, mais qui rappellent aussi les Ménines de Velázquez, dans ces hommes encagoulés qui peuvent aussi bien faire référence au Ku Klux Klan que à la Sainte Inquisition. Et quand ils arrivent sur scène, qu'ils forment un chœur comme ça, ils se retrouvent et qu'ils se retournent face publique, et là ils sont nus sous leur toge. Waouh, et il y a tout ça. Et alors, moi, ça m'a vraiment fait penser aussi, et c'est là où elle est quand même espagnole 100%. C'est les derniers mots de La Casa de Bernarda Alba de Lorca, où la mère, quand elle renferme, elle tourne la clé de la maison et en disant à ses filles :« Maintenant, vous sortez plus. » C'est silence, silence, silence. Et elle vient d'un pays où, effectivement, quand Lorca écrit ça, c'est juste avant 36. Une chape de plomb s'est abattue sur l'Espagne, mais encore aujourd'hui, sur la question de la place de la femme, sa liberté dans le désir, dans le choix, dans ses choix sexuels, dans ses choix amoureux, elle est toujours sous l'emprise du patriarcat. Voilà.
Non, mais je vous en prie, Philippe Chevillier, Scarlet Letter d'André Ligalidel.
Moi, je suis plus mitigé, mais c'est vrai que partagé, parce qu'il y a à la fois, alors le point de départ, je trouve, est finalement assez lumineux, en effet, puisque le roman de Hossorn, on a bien cette idée du combattre le puritanisme, avec en plus cette lettre brodée qui va devenir évidemment chez Angelica le A d'Angelica, le A de Artaud, le A de Art, enfin ce que vous voulez. Et dans le Hawthorne, il y a aussi le fait que la lettre est brodée d'or. Il y a une dimension anti-puritaine, il y a un discours sur l'art aussi dans le roman, donc on s'y retrouve tout à fait. C'est un peu dommage, vu qu'il y a pas mal de choses inscrites sur les murs et les textes, qu'il n'y ait pas un petit moment pour les gens qui n'ont pas révisé leur roman, que ça ne soit pas indiqué de façon plus claire. Parce qu'il y a la partie quand même qui est jouée avec Arthur et donc le pasteur, et donc Esther qui est la femme, l'héroïne. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, elle est très mal jouée en plus, c'est un moment catastrophique de la pièce. Ah bah oui, il y a un petit moment qui est assez beau. Alors moi, sur les hommes nus qu'on avait déjà vus dans Le Viol de Lucrèce, très beaux, et bon, ils sont très beaux pendant tout le temps. Je trouve que c'est un peu longuet, là je suis d'accord avec Lucille, le début, ça m'a fait penser un peu à du Yann Fabre dans son côté kitsch et un peu à une revue du Lido avec des hommes nus. Bon, finalement c'est pas plus mal une revue du Lido, ça change. Et donc il y a un côté hyper kitsch quand même dans le décor, dans cet usage des images baroques, des images qui semble un petit peu se répéter par rapport au précédent spectacle. Donc moi j'ai eu un moment où j'ai un peu lâché comme ça. Il y a évidemment les deux grands monologues qui sont provocateurs, et c'est assez extraordinaire qu'on soit pas complètement horrifié, parce que ce qu'elle dit sur les femmes, c'est de plus de 40 ou 50 ans, c'est pire que Yann Moix. Ce qu'elle dit sur le désir porté à l'homme noir est très très ambigu. Une scène de vaudou d'ailleurs qui est kitschissime aussi, d'ailleurs, parce qu'on a les hommes nus qui agitent des cyprès derrière. C'est à un moment où on se demande un peu ce qui se passe. C'est à deux moments un peu comme ça qui sont vraiment borderline, et puis tout d'un coup à la fin elle nous rattrape, et le dernier, je trouve que le dernier monologue est très fort et très puissant, et à la fin on se dit, a quand même du courage. C'est vrai que c'est une rebelle. Elle mène son propos. Elle change pas. Elle creuse son sillon. Et on la suit, on la suit pas. Mais c'est vrai qu'elle porte quand même quelque chose. Elle est quand même inspirée. Mais pour moi, c'est quand même pas du niveau de la Maison de la Force et du premier spectacle, quand même.
Ouais, c'est vrai que alors, pour ce qui me concerne, j'ai eu des rapports, fluctuants avec Angelica Liddell, en tout cas ces spectacles, parce que j'ai pas beaucoup aimé la Casa de la Fuerza ou l'Agneau des Ricardo. Tout cela, il y a vraiment tout le ciel sur la terre, pour le dire en français, qui m'avait absolument bouleversé. Puis après, de nouveau, c'était parti sur des choses moins intéressantes. Mais là, je suis encore passé par différents états pendant ce spectacle, comme vous ici. Et en même temps, c'est comme une sorte de cas d'école sur le fait qu'il faut voir les spectacles en entier pour avoir un avis sur eux. Parce que c'est le cas pour certains livres, pour certains films, pour certains spectacles. C'est vraiment à la fin qu'on peut avoir une lecture rétrospective de ce qu'on vient de voir. C'est vrai que je me suis demandé dans un premier temps aussi si des gens qui ne vont pas spécialement au théâtre rentrer et voyaient 600 ou 500 personnes regarder des hommes nus trimballer des tables en hurlant, ce qu'ils pouvaient penser de nous spectateurs. Il y aurait, parce qu'on regardait ça avec beaucoup de sérieux. En même temps, moi je trouve ça quand même très beau, ce plateau presque nu, un peu moins que les hommes, mais ces grands rodéos rouges, ces lumières souvent rouges aussi, la musique sacrée incantatoire qui accompagne donc ces sortes de rituels très énigmatiques auxquels se livrent les interprètes de ce spectacle. Et puis bon, comme le disait Lucille Comeau dans son introduction, très éclairante, on attend qu'advienne la parole avec Angelica Liddell. Et là, pour le coup, moi, j'ai souvent été un peu mitigé, on va dire, sur ses propos, notamment politiquement. Là, j'étais curieux de savoir ce qu'elle avait à nous dire sur aujourd'hui. Donc, c'est avec ces deux grands monologues. Première partie, vous l'avez dit, une sorte de réponse à MeToo, en s'attaquant aux femmes de plus de 40 ans. Hein. Elle, dans le texte, c'est 40, c'est pas 50 comme l'autre abruti. Mais bon, après, c'est avec l'outrance qui la caractérise. Liddell, je trouve qu'elle frappe assez juste, même si elle semble frapper assez indistinctement. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Et moi, c'est le second monologue qui m'a vraiment bouleversé, puisque c'est là qu'elle défend donc la liberté absolue de la création. Alors là, c'est un texte éminemment politique, pour le coup, en nous balançant, alors avec sa force, le fait que aujourd'hui on voudrait du Henry Miller sans sexe, qu'on voudrait du Baudelaire sans la vieille pute parisienne, qu'on voudrait, bref, du Artaud sans Artaud. Et avec cette phrase, oui, j'ai noté au vol, c'est presque la conclusion, elle dit « Il vous faut la violence infinie de l'amour ». Mais cette énumération des artistes, comme ça, moi, ça m'a qui sont ou qui seraient ou qui sont aujourd'hui à empêcher. Moi, ça m'a énormément ému. Et à ma très grande surprise, ça m'a fait pleurer. Je veux dire que les larmes sont montées et que je m'attendais pas du tout à ce, voilà, à cette capacité-là. Rayleigh Kalidel, ça m'était arrivé sur Todo el cielo sobre la tierra, et là, ça c'est reparti parce qu'elle met, elle montre à quel point notre époque, elle est quand même vraiment très sous le coup quand même de censure, de tout, du politiquement correct, on l'appelle comme on veut, mais c'est quand même aussi une époque qui a une forme de haine pour l'art, pour la création, et que la lettre écarlate aujourd'hui, c'est effectivement comme artiste, et vraiment c'est vrai que c'est tout outrancier comme propos, mais moi j'ai pris vraiment avec une force incroyable de se dire mais oui, dans quel monde on vit, Lucille Comeau?
Oui, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que son propos, il est réactionnaire et que ça crée chez nous un sentiment réactionnaire. Ça, c'est quand même très fort. Et en plus, elle c'est des clichés. C'est-à-dire que non, mais c'est ça que, c'est un petit peu ça que vous dites. En effet, ça produit une forme de regret. Ah, moi, je pense que ça l'est, mais je pense que comme tout discours proféré sur une scène, de toute façon, il y a une distance avec le public et que pour le coup, là, ça crée vraiment de la pensée. Moi, ça me met dans un état étrange de supporter ce qu'on entend, par exemple, ce qu'on entend sur les femmes, de me dire, je suis en train de supporter ce qu'elle est en train de dire, j'adhère d'une certaine manière parce qu'elle a un corps et qu'elle a une voix et qu'elle a une diction qui, de toute façon, emporte presque le discours et l'emporte presque sur les conditions historiques dans lesquelles elle est en train de le proférer. C'est ça que je voulais dire. Il y a une posture qui est tellement romantique là-dedans qu'en effet, ça emporte tout. Moi, j'ai pas, par exemple, je peux pas dire que je sois choquée par ce qu'elle dit sur les femmes ou par cette posture de sorcière qui, en effet, va complètement à contre-courant de ce qui se dit aujourd'hui. Il y a une écrivaine qui a écrit un livre là, sur les sorcières récemment. On peut forcément penser à ça. À Mona Chollet, qui, elle, justement, montre que la figure de sorcière peut être retournée comme une figure d'empowerment. Elle, là, André Licalidel, elle freine des cas de fer. C'est-à-dire que pour elle, la sorcière, c'est la sorcière hyper archaïque de tous les clichés de l'obscurantisme médiéval qu'on a tous en tête quand on n'a pas revu l'histoire médiévale. Et elle s'assume, elle assume ça d'une manière tellement forte que c'en est presque impressionnant de réaction, vraiment
oui,
de réaction.
Oui, mais moi, ce que je voulais dire, et je vais donner la parole à nos camarades, bien sûr, c'est que qu'il soit encore possible de montrer sur scène ce qu'elle montre sur scène, qu'il soit encore possible de dire sur scène ce qu'elle dit sur scène, moi, ça me fait du bien, ça m'émeut beaucoup et ça me fait du bien parce qu'on est quand même dans une époque où vous reprochez tout à l'heure aux idoles de pas aller dans le vif et dans ce qui vous intéresse. Je trouve qu'en Rayleigh Kalidel, elle y va. Philippe Chevillier.
Oui, je pense aussi que la dimension qui peut être évidemment choquante au premier degré, au deuxième degré, ou même au dixième de son discours sur les femmes, c'est que on attend après, avec ce plaidoyer pour les hommes et ce rejet des femmes, une forme de soumission là-bas. Et c'est pas du tout ce qu'on voit sur scène, parce que sur scène, les hommes qui sont nus, elle est un peu, c'est la sorcière, mais c'est aussi elle a son harem. Elle l'amène à la baguette, si je puis dire. Et elle, à un moment donné, ils sont même encordés, ces hommes. Donc c'est vrai qu'on voit des choses, on a des sentiments différents, on a des sentiments contradictoires quand on voit le spectacle qui fait, bon, ce qui n'empêche quand même qu'il y a des moments où je trouve que c'est quand même un peu,
Sur le féminisme, son monologue sur le féminisme, il dérange parce que comme je le disais, il prend à rebrousse-poil tout ce qu'on peut entendre, mais parce qu'elle ose quand même dire que c'est pas parce qu'on est femme qu'on n'a pas le droit de revendiquer le droit à la soumission ou à l'insoumission, à avoir des pulsions sexuelles, et elle refuse le statut de victime. Et donc elle prend le contre-pied de ça. C'est pas réactionnaire, ça, moi je pense que ça, mais au contraire, ça nous oblige à réfléchir le féminisme autrement que par un seul axe, un seul prisme qu'on nous donne depuis 2 ans. Et sur ce que vous disiez, Arnaud, sur l'émotion au moment de quand elle convoque tous ces poètes, ces écrivains qui nous ont touchés un jour ou un autre à leur lecture, elle dit qu'un monde qui a mal à ces poètes de la sorte, qui maltraitent ainsi ces poètes, est un monde qui mérite de disparaître. Et elle a raison parce que elle-même, enfin, elle se met dedans, mais nous tous, c'est-à-dire que jusqu'à quand va-t-on continuer laisser nos artistes, les créateurs, être aussi piétinés, ridiculisés, l'anti-intellectualisme qu'on brandit à tout bout de champ, voilà, tout ça, ça commence à faire beaucoup.
Bon, il y aura encore beaucoup à dire, mais on s'arrête là, parce que le temps file. The Scarlet Letter, texte et mise en scène de Rayleigh Kalidel. librement inspiré de l'œuvre de Nathaniel Hawthorne. C'est jusqu'au 26 janvier à la Colline Théâtre National. Et puis, il faut dire aussi que Les Solitaires Intempestifs publient l'intégrale des textes d'Henri Legaledel, c'est-à-dire depuis 2004 jusqu'à... Enfin, peut-être toute la première partie jusqu'à 2015, je crois. Un gros volume pour retrouver tous les textes d'Henri Legaledel. C'est le moment du coup de cœur de Philippe Chevillier pour un spectacle dont nous avons parlé dans la dispute. Nous avions consacré une dispute à ce Beethoven de Freda Eixentag, qu'il a écrit et mis en scène, mais on avait envie d'en entendre à nouveau parler, ce qui tombe bien parce que le spectacle est en tournée, Philippe.
Alors, ça tombe bien parce qu'il faut résumer en une minute un spectacle de 2h30 où il se passe 10 millions de choses, des millions de personnages.
Ben voilà.
Non, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce que fait Eixentag. Je trouve qu'il a toujours des idées de départ très, très bonnes. Et là, d'avoir choisi le personnage de Beethoven, écrivain mystérieux, 1822, mort on ne sait pas très bien quand, qui a croisé des millions de gens. On a pu penser à un moment donné que c'était peut-être le fils du Kaiser, que c'était... le fils du président, ou le président du Mexique lui-même, je crois qu'il y a eu plein de bon. Et donc, sur scène, ça lui, évidemment, c'est un personnage mystérieux, et ça lui permet d'aller enquêter. En fait, c'est un, on suit des personnages qui vont enquêter sur lui. On tombe en pleine révolte d'étudiants du Mexique, je crois, dans les années 70. On est plongé aussi en France dans les années 90. Donc, les mouvements sociaux sont mis en parallèle. On croise Trotsky, on croise Mirna Loy, on croise Rosa Luxembourg, et tout ça paraît relativement clair en 2h30. C'est-à-dire que moi, j'avais trouvé à l'époque qu'on avait un petit peu un mélange de Gosselin, parce qu'il y a cette capacité de faire des fresques avec des personnages qui sont dans le monde entier, et un peu de Michalik dans cette façon qu'il a de raconter des histoires. Sauf que l'esthétique n'est pas du tout celle de Michalik, encore qu'il y a un côté récup un peu dans les... Et puis, il y avait un orchestre de rock au coin de la scène qui nous portait avec de la musique. Donc, j'en parle au passé, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais je pense que c'est vraiment un des spectacles, pour moi, les plus marquants de l'année écoulée, et que c'est très intéressant qu'il puisse être en tournée. Il faut aller le voir, le découvrir. Il y a vraiment une jeunesse dans ce spectacle, une énergie. Et tous les spectacles de Eixentag sont à redécouvrir. Donc voilà.
Oui, ça fait partie du cycle sur la trilogie fantôme avec des personnages comme ça, Georges Caplan, celui de la mort aux trousses, et voilà. Benjamin Walter, qui était le double de Walter Benjamin. Là, c'est Beethoven. Prochaine date, du 29 au 31 janvier, au théâtre Dijon-Bourgogne, Centre dramatique national. Et puis, du 4 au 6 juin, au théâtre du Nord, dans le cadre du festival Lille 3000, pour ce Beethoven de Frédéric Eixentag.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Dernier spectacle à notre sommaire, Erwart, ou Les derniers jours de Friedrich Nietzsche. C'est un spectacle qui a été créé à la Comédie de Saint-Étienne et qui est jusqu'au 10 février au Théâtre du Rond-Point à Paris, avant d'autres dates à Limoges. Laurent Fréchuret met en scène donc cette pièce, on va dire, pataphysique d'Hervé Blotsch. C'est de la qualifier, dans laquelle Vincent Dedienne interprète le rôle-titre, à savoir un mari très jaloux, très paranoïaque, très violent, qui va mettre, comme il l'annonce d'entrée, la ville à feu et à sang, parce qu'il pense que sa femme, qui a souri à un homme, est forcément adultère. C'est une autre version de Scarlet Letter, mais on va croiser aussi au passage un vieux philosophe qui a une grande moustache et qui aimerait bien travailler en paix.
Et alors, la vérité ne sort-elle pas de la bouche des alcooliques ?
Mais non, vous êtes des enfants, Herbart. La vérité sort de la bouche des enfants.
Madame a raison, monsieur. La vérité sort de la bouche des enfants, non pas des alcooliques.
Comment le savez-vous ?
C'est écrit dans les livres, monsieur.
Très bien, qu'on aille me chercher un enfant.
Oui, monsieur.
Et quand il aura parlé, je mettrai la ville à feu et à sang.
Parler pour dire quoi, Herbart ?
Mais la vérité, si celle-ci doit sortir de sa bouche. Alors ? Il vient, seigneur ?
Le voici, monsieur. C'est une petite fille, elle s'appelle Micheline.
Parfait, eh bien vas-y, je t'écoute, parle.
Que dois-je dire, monsieur ?
La vérité ? Micheline,
Je suis fatigué. J'ai le sang chaud et de surcroît, j'ai bu. Aussi, je te saurais gré de me répondre assez rapidement. Suis-je, oui ou non, cocu? Parle.
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas.
Ridicule,
qu'en penses-tu, Micheline?
Stockholm, raccompagnez cette petite à son enclos. Vous voyez bien qu'elle n'a rien à faire ici.
Monsieur?
Va. Son silence vaut une réponse. À mon retour, prépare ma voiture, je veux 50 hommes qu'ils m'attendent dans la cour.
Bon, ben voilà pour cet extrait, qui est plutôt le début, quasiment le début de Erwart ou les derniers jours de Friedrich Nietzsche, ce qui vous évitera, Marie-Josée Serrage, de devoir résumer le point de départ, puisqu'on l'a ici assez bien entendu, cet auteur, Hervé Blutsch, reste un mystère, hein. Vous savez que Hervé Blutsch, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, mais qui est publié sous un autre nom ou pas, c'est on ne sait pas. Ah, allez savoir, il y a une sorte de mystère, hein, Hervé Blutsch, me semble-t-il. Bon, premier regard sur cette pièce qu'on voit au rond-point en ce moment.
Eh bien, l'extrait que nous avons entendu est assez significatif de la pièce, c'est-à-dire que c'est ce ton-là, durant 2h30, où autour de ce mari jaloux, Erwart, une sorte de marivaudage, de je sais pas, de tête de boulevard, enfin toutes les portes qui claquent, qui se déplacent.
Vous avez l'air emballé, Marie-Josée, c'est fou.
Oui, je suis désolée, non, franchement j'ai trouvé ça très ennuyeux, totalement insipide, pardon de le dire comme ça, mais j'ai pas du tout accroché, je comprends pas ce genre de... Enfin, ça amuse les gens sont contents, très bien. Mais moi, personnellement, je suis passée totalement à côté de ce spectacle.
Bon, ça c'était le premier regard. On verra s'il y a quelque chose à creuser plus tard ou pas. Philippe Chevillier sur Erwart.
Alors moi, je vais le défendre parce que, d'abord, je crois qu'Hervé Blutsch, oui, c'est vrai que c'est quand même un personnage assez amusant. Si on regarde la fiche Wikipédia, déjà, on commence par sur Hervé Blutsch. D'abord composé en latin, ses premiers textes dépeignent avec une troublante perspicacité les travers de la société romaine du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Bon. Ensuite, on apprend dans la bio qu'il crée une chaîne de coiffeurs et qu'il est un spécialiste des produits capillaires bio, que j'ai essayé d'ailleurs, vous voyez que ça ne marche pas du tout.
Ouais, on n'a pas la radio, donc, on n'a pas l'image de la radio, mais vous êtes aussi chauve que moi.
Ce qu'il a voulu faire. Alors, apparemment, il y a d'autres textes, hein, celui notamment avec, je crois, Qu'est-ce que le théâtre avec Benoît Lambert, qu'il a fait en 2013. La gelée d'arbres aussi, que j'ai pas vu, qui paraît-il un texte très bien. Bon. En fait, ce qui se passe avec ce texte, c'est que c'est une pièce qui se veut une pièce de théâtre de l'absurde, avec un creuset qui part du boulevard, effectivement, mais pour en partir très vite, puisque on arrive à des moments complètement surréalistes. Il y a sur scène, dès le départ, trois personnages de deux, trois acteurs qui n'ont rien à voir avec la pièce, qui jouent une pièce en anglais. Il y a Nietzsche qui va effectivement mettre ses livres dans des poubelles qu'il va faire exploser, qui fait des claquettes. Il y a un philosophe citationniste qui essaie de guérir tout le monde avec des citations. Et puis, il y a aussi cet agent secret, zoophile, qui échange quand même son caribou contre une jument ou un cheval de Troie, on ne sait pas très bien. Alors, ça se veut un peu mélangé. C'est surtout Jarry, hein, qui évidemment, à mon avis, l'inspire. Et ça se veut un peu Monty Python. Alors après, je suis d'accord qu'on peut très bien considérer que ça ne fait pas rire du tout et qu'on... Voilà. Il y a... ce qui est intéressant aussi, c'est que le rôle d'Erwart, qui est tenu par Vincent Dedienne, en fait, on le voit assez peu, Erwart. On le voit au début, on le voit surtout... On le voit surtout à la fin, et cette fin tombe dans une dimension tragique qui est assez dramatique en tout cas, qui est, moi je trouve, plutôt réussie. Alors après, il y a juste une dernière chose sur la mise en scène, donc c'est Laurent Fréchuret. Son parti pris, c'est de dire la pièce est assez délirante, donc je vais faire quelque chose d'élégant, de fluide. Et c'est vrai que c'est peut-être là qu'on peut avoir... Je pense que si on l'avait vu de façon... extrêmement sauvage, extrêmement trash, peut-être que vous l'auriez vu différemment, la pièce. Mais voilà, donc moi je défends ce qui est finalement une espèce de... Bah, quand on regarde, excusez-moi pour une espèce, quand on regarde ce qu'a Ubu Jarry, c'est un peu dans cet esprit-là, donc on marche ou on marche pas, mais c'est pas complètement anodin ni sans intérêt pour moi.
Voilà. Ah, elle me manquait depuis quelques jours les mimiques de Lucille Comeau.
Ah bah, je là, l'ai pas
ça a été un vrai festival.
Je me doutais qu'elle était en train de se moquer de moi.
Non, de vous, jamais. Non, non, mais Jarry, non, c'est pas possible. Enfin, franchement, Jarry, c'est Hubert, ça n'a rien à voir du tout. En fait, c'est un énorme problème de texte. Enfin, moi, je suis d'accord avec Marie-Josée. Je trouve que c'est catastrophique, ce spectacle. Il y a cette espèce de... On nous vend donc une sorte de faux vaudeville avec des tas de digressions, des faits de mise en abîme sur mise en abîme qui font un peu genre, enfin, qui font sophistiquer des effets de citation. En effet, il y a cette pièce anglaise qui est jouée, bon, qui fait évidemment référence à Beckett ou au théâtre de l'absurde, comme quoi, du coup, comme repoussoir, on sait même pas. On s'accroche à rien dans cette pièce qui dure, mais infiniment longtemps, ni au vaudeville, au final, qui, en effet, n'est pas à la substance, mais bon, je pense que c'est fait exprès, hein, du texte, ni à cette espèce d'intrigue loufoque du détective zoophile. Je trouve ça vieux et vraiment très, très, très mauvais, pas du tout drôle, ni à cette espèce de voix là intellectualo métaphysique qui nous est donné par-dessus, qui est d'une prétention en plus, moi je trouve. Et puis alors là-dessus, on a tous les moyens du théâtre d'aujourd'hui qui sont mobilisés, la vidéo, la musique, l'acteur bankable Vincent Dedienne qui s'en sort relativement bien, je trouve, parce que il a vraiment rien, enfin il n'y a aucune substance, il n'y a pas de personnage. Donc vraiment c'est très 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 long, c'est extrêmement fatigant à regarder. En fait, on a l'impression qu'on essaye de noyer un poisson dans des tas d'effets qui sont à la fois du fait du texte et du fait de la mise en scène, et ce poisson, en fait, je pense qu'il n'existe pas. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de poisson.
Bon, bah,
ça sera ma conclusion.
Eh bien, écoutez, moi, je rattrape au vol et je vais faire une sorte de match nul, puisque je vais être plutôt du côté de Philippe Chevillier. Moi, je suis... bon, je vais te dire que c'est le meilleur spectacle que j'ai vu cette saison. Mais moi, je suis heureux que des spectacles comme ça existent. Parce que d'abord, moi, je suis client de cet humour-là. Et si vous trouvez l'écriture calamiteuse, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, de situations qui m'ont amusé, y compris dans l'enquêteur zoophile. c'est comme ça. Non, mais après, c'est vraiment... Le monde est séparé en deux, au moins, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on est sensible à ce type d'humour ou pas. Visiblement, Philippe Chevillier et moi-même le sommes davantage, tellement dire, davantage que vous.
On va dire c'est un humour de garçon, alors.
Oh, bah non,
mais en plus, il y a plein de comiques différents.
Ce soir, peut-être, mais je crois que c'est pas là.
Caribou n'est pas un animal, forcément.
Mais ce que je trouve réussi, c'est que justement, cet humour-là, il est traité avec sérieux, avec invention, avec énergie. Je trouve que les comédiens sur le plateau, ils y vont, ils sont dans la même énergie ensemble. Je trouve que Vincent Dedienne, moi, je l'avais pas vu dans d'autres spectacles de théâtre, et je trouvais qu'il a effectivement une présence qui est vraiment intéressante. Enfin, il y a une façon comme ça de délivrer le texte avec une énergie. Bon, il est très fort dans les sortes de ruptures comme ça de ton. Enfin,
oui,
donc
il
utilise beaucoup, mais quand on sait très très bien faire quelque chose, il faudrait pas s'en priver. Quand vous dites voilà, la vidéo, la musique, c'est quand même, la vidéo est assez discrète, voilà, assez peu présente. La musique, elle est... Moi, elle m'a fait rire aussi avec ses juxtapositions. On part du sublime thème du mépris, on arrive sur un coussin péteur quasiment. Bon, moi, je suis client et Philippe Chevillier aussi.
Oui, en plus, alors il y a aussi le personnage de Marie-Christine Horry, qui est la comédienne qui essaie désespérément d'avoir un rôle, donc il se retrouve effectivement toujours... d'abord, elle commence par représenter le peuple, et puis on lui dit non, on n'a pas besoin du peuple, alors du coup, elle va devenir, je sais pas, une représentante de l'ONU ou d'un...
Commission européenne,
et elle va finir la putain, donc Terre Varte, donc alors c'est un côté, effectivement, un peu après, critiqué, mais...
non, mais c'est intéressant.
Et la femme d'Terre Varte, la place des femmes dans cette pièce-là, la façon dont elles sont mises en scène, je trouve ça assez dégradant pour le coup.
Bah, c'est pas. C'est, ah bah. On est. Dans Jarry.
Vous allez retourner voir Henri Caledel,
oui,
ou hein, Marie-Josée, parce que.
Dans Jarry, la mère Ubu est pas non plus extraordinaire.
Arrêtez avec Jarry, oui, enfin là.
C'est non, pas la mère Ubu, c'est si, en train de se retourner,
ça n'a rien à voir. Bah non, pourquoi il se retournerait, ça se trouve, c'est lui, Hervé Blush, c'est peut-être le fantôme de Jarry, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui? Et alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans cette fin, justement, qui vire, parce qu'à la fin, on a quand même. À toute fin, ça vire vraiment au cauchemar. On sent bien que c'est le cauchemar d'Terre Varte qui se crée. Et là, je trouve que Dedienne, effectivement, apporte... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans une dimension dramatique, il sait faire aussi, on découvre que pouvait se douter que le comédien sait un peu tout faire. Et ça, je trouve ça très bien pour lui. Mais il y a aussi d'autres comédiens, je voulais quand même souligner, que j'aime beaucoup, et notamment Stéphane Bernard, qui fait justement le zoophile, qui est au-delà de la zoophilie, est vraiment un très bon acteur qu'on a vu chez Scaretti. Et voilà.
Mais c'est vrai que les acteurs sont bien.
Mais j'adore Jean-Claude
Boléréda.
C'est
ça qui est quand même incroyable. Malgré tout, ils sont plutôt bien.
Ah, bah, il y a quelque chose, alors,
oui,
peut-être.
Mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Mais c'est vrai que le cas de Marie-Christine Horry, c'est intéressant parce que dans sa première scène, j'ai eu très peur. Je me disais, mais pourquoi elle joue comme ça, etc. Et effectivement, ce personnage se développe, s'affirme. Et je me dis, voilà, une direction d'acteur juste et un texte juste qui permet de faire passer c'est le spectateur dans ses différents états. Bon, Lucille Comeau est consterné par mes propos.
Hein. Je suis contente de pas
je
être seule.
Je traduis ses mimiques. Voilà, sachez-le, je consterne Lucille Comeau sur Herwart ou Les derniers jours de Friedrich Nietzsche. Hervé Blutsch, c'est une mise en scène de Laurent Fraîcheret jusqu'au 10 février au Théâtre du Rond-Point. Sachez, alors c'est plus pour vous mesdames, il y aura une projection d'un documentaire de Régis Bardon sur Erwart qui aura lieu le 4 février au Théâtre du Rond-Point. Et vous pourrez aussi découvrir une exposition de gravures de France Dumas autour d'Erwart, c'est à la librairie du Rond-Point. Vous êtes peut-être allé voir déjà l'autre soir. Enfin, sachez que vous irez également à Limoges, au Théâtre de l'Union, pour aller voir ce spectacle qui s'y jouera les 13 et 14 février pour vous rattraper un petit peu. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce soir concernant Erwart ou les derniers jours de Friedrich Nietzsche. Sommes-nous d'humeur joueuse? Oui, certainement, avec Sarah Dion, chaque soir, le jeu de la dispute. Et d'abord, Sarah, un rappel de la question du jeu de vendredi soir, et par la même occasion, vous allez nous donner sa réponse.
La question de vendredi était quelle est historiquement la première association de protection des animaux en France? Et la réponse est tout simplement la SPA.
Vous auriez demandé la deuxième, ça aurait été plus compliqué. Mais enfin bon. Ce soir, des invitations à gagner pour Soleil Blanc de Julie Berès. C'est à voir au Célestin, le Théâtre de Lyon. Ce sont des places à gagner pour jeudi, 17 janvier, à 20h. Quelle est la question?
À quel siècle remonte la création du Théâtre des Célestins à Lyon?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions. Et bien sûr, c'est encore plus simple, vous abonner au podcast. Demain à 19h, une dispute musique. Je serai en compagnie d'Emmanuel Giuliani, Anna Sigalevitch et Laurent Burry. Deux DVD d'opéra à notre programme, celui de Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov et puis Wonderful Town de Leonard Bernstein dirigé par Larry Blanc, mise en scène Olivier Benezé, puis un disque de Luca Genusias, les sonates de Prokofiev. Il y aura un coup de cœur pour un livre, La vigne écarlate de Vincent Borel chez Sabine Vespizer.